France Culture.
Bonjour Abdelatif Lahabi.
Bonjour.
C'est le deuxième épisode de Nos Avoies Nues. On s'est quitté à la fin du premier épisode, aux premières années après l'indépendance du pays, du Maroc, en 1956. On vous retrouve au début de ce deuxième épisode alors que vous êtes étudiant de lettres à l'université de Rabat. Vous êtes jeune enseignant dans un lycée. Alors, université et études de lettres, alors même que, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être l'occasion de le faire, vous étiez un féru de cinéma. Vous aviez très envie d'étudier le cinéma, peut-être même la philo, mais pas les lettres. Alors que vous adoriez lire aussi, hein. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé en lettres?
Écoutez, j'y ai réfléchi. Ma vie a été une série de renoncements. Je l'ai exprimé quelque part. Ma vie ne se résume pas à ces renoncements, bien au contraire. Mais il y a eu dans ma vie un certain nombre de renoncements. Je voulais faire du cinéma. Je n'ai pas pu partir à l'étranger parce qu'au Maroc, c'était pas faisable. Il y avait à l'époque l'IDEC en France que je...
L'ancêtre de la FEMIS.
Je voulais y aller. Je me suis résigné, je me suis inscrit à la faculté de lettres, je voulais faire philosophie, mais il n'y avait pas assez d'étudiants à l'époque pour les lettres françaises. Donc on m'a mis d'office en lettres françaises. Voilà. Mais en même temps, ça ne m'a pas empêché de faire du théâtre. L'idée est venue parce qu'il y avait un metteur en scène qui, avec lequel on s'est lié d'amitié. Et c'est quelqu'un qui a introduit pour la première fois le théâtre d'avant-garde au Maroc. Du coup, le choix s'est porté sur une pièce de Bertolt Brecht, à l'époque, en 1963, et une pièce de Fernando Arrabal.
C'est pour ça que sur votre site, vous dites, là, entre Brecht et Arrabal, sur votre site personnel, on peut lire ça, vous rencontrez une certaine Jocelyne.
Et voilà. Et
étudiante venue de Meknès, passionnée de théâtre, elle aussi.
Oui, oui. Donc, elle s'était présentée. Parce que on n'était que des garçons. Il n'y avait pas de filles. On a lancé comme ça, on a fait des affichettes pour faire passer comme ça un bout d'essai à des jeunes filles qui voulaient bien participer à cette aventure. Et il se trouve que Jocelyne, ma compagne, s'est présentée à cette époque-là avec une de ses copines. Et on les a prises d'office, en quelque sorte. Parce qu'on pouvait pas faire autrement. Mais bon, Jocelyne avait choisi un texte, bon, elle l'a bien défendu. Je dis pas ça pour... Et donc, voilà, on s'est connus, justement, en faisant du théâtre ensemble. Jocelyne jouait le rôle principal dans la pièce de Fernando Arrabal et moi je jouais le rôle d'un prêtre dans la pièce de Brecht qui s'intitulait Les fusils de la mère Carrare.
Vous en souvenez?
Voilà. Mais avant l'université, il y avait quand même toute une période, c'est-à-dire c'était le lycée Moulay Driss à Fès, parce que c'est une institution très importante dans l'histoire contemporaine du Maroc. C'est l'élite marocaine, une bonne partie de l'élite marocaine s'est formée dans ce lycée. Et on avait véritablement des enseignants d'une grande qualité. Et donc, je dois beaucoup à mes professeurs quand j'étais à... On appelait collège alors que c'était un lycée. Au collège Moulay Driss, je leur dois beaucoup des connaissances que j'ai accumulées. Mais aussi, un peu plus tôt, c'est-à-dire dès que j'ai été au lycée, j'ai découvert une passion pour la lecture. Très rapidement, je dis que il y avait une bibliothèque municipale au sortir de la médina de Fès, c'est dans la place Batha, et donc je me suis inscrit et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait lire. Donc j'ai agi de la façon la plus bête qui soit. J'ai pris le premier rayonnage, et puis ensuite le second, le troisième et le quatrième, et petit à petit j'ai découvert les auteurs qui vont me marquer. À savoir Dostoïevski, Balzac, Zola, même si au départ ça a été très anarchique. Je lisais de tout. Mais au fur et à mesure, une certaine décantation a pu se produire. Et Je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et j'ai découvert, c'est étonnant, combien Dostoïevski, par exemple, a compté pour énormément d'écrivains. C'est fou. Pour moi, ça a été aussi un déclic majeur.
Vous arriveriez à dire en quoi ?
Parce que, justement, les personnages de Dostoïevski, je les avais à la maison. Incarné par le personnage de ma mère. C'est un personnage dostoïevskien par excellence. C'est-à-dire passant d'une humeur à une autre, un art de la contradiction, mais alors abouti, enfin, et une faconde incroyable. Voilà pour moi ce qu'est un personnage dostoïevskien. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler, mais qui va dans tous les sens et qui arrive à faire ressortir tous les ressorts de ce qu'on appelle l'âme humaine. Voilà pourquoi Dostoïevski, parce que je disais, ben quoi, c'est un auteur russe, machin, etc. Et puis, ben c'est bizarre, moi je connais un personnage de ce type-là. Il est à Fès, il est chez moi, tout cela. D'où la découverte de la puissance de la littérature, de son extérioralité. Dire ça n'a pas d'identité nationale ou quoi que ce soit. La littérature est universelle.
Alors. Des auteurs de langue arabe aussi, à cette époque-là ?
Moins, parce que vous savez très bien que dans le cursus, même au collège et au lycée, ne parlons pas de la école primaire, la langue arabe était enseignée comme une troisième langue. La plupart des matières étaient enseignées en français. Voilà pourquoi, lorsque j'ai terminé mes études secondaires et que j'ai commencé à écrire. Comme je le dis souvent, la seule langue que je maîtrisais véritablement pour m'exprimer, c'était le français. Ce n'était donc pas un choix, comme on cherche la plupart du temps à nous le faire avouer. C'est-à-dire qu'on m'a choisi la langue française, or que, bon, pour beaucoup d'écrivains de ma génération, ça n'a jamais été un choix, ça a été un fait accompli.
Celle que vous avez apprise et celle que vous avez étudiée.
Voilà.
Alors, il y avait la littérature, quand même, qui vous a fait faire des lettres, des études de lettres, et devenir enseignant, Abdelatif Lahabi. L'amour, avec Jocelyne, vous avez fêté vos noces de diamant, je crois que c'est ça qu'on dit, même si vous dites que c'est...
Ça s'appelle comme ça.
Je crois que ça s'appelle comme ça, 60 ans. 60 ans d'amour. Et puis, il y a eu, assez vite, la politique. La politique, parce que le 23 mars 1965 se produit un événement majeur du point de vue de votre engagement politique, et j'aimerais bien que vous nous le rapportiez.
Oui, les événements de Casablanca, bien sûr, ont été un choc pour la nation. Enfin, de façon générale, on a découvert que l'armée d'un pays pouvait tirer sur sa population.
Des enfants qui ont été massacrés dans les rues de Casablanca.
Des adolescents, enfin, des enfants de... Des jeunes lycéens, essentiellement,
mais
auxquels se sont adjoints, bien sûr, un certain nombre de citoyens, soit des chômeurs, soit des gens qui voulaient crier leur révolte et revendiquer un certain nombre de droits.
Il faut rappeler juste qu'en 1961, Hassan II a succédé à Mohamed V, et donc là, on est sous Hassan II.
Oui, c'était à l'époque Hassan II, et puis c'est le général Oufkir qui avait mené, disons, la bataille de Casablanca pour mater la révolte populaire à cette époque-là. Jusqu'à maintenant, le nombre de victimes n'a jamais été établi véritablement. On parle, bien sûr, les autorités parlent de centaines de morts. Les gens qui sont plus près des événements qui se sont passés parlent de milliers, tout cela. Bon, on ne le saura jamais. D'autant plus que, bon, l'école... Des historiens au Maroc a de la peine à se former. Il n'y a pas encore véritablement un travail de fond sur l'histoire contemporaine du pays. On dirait que l'histoire du Maroc s'est arrêtée le jour de l'indépendance.
Est-ce que vous diriez, Abdelatif Lahabi, que c'est de là que date votre véritable révolte politique et donc l'écriture et donc les engagements qui vont suivre ?
Non, peut-être avant la révolte politique, je crois qu'il y a eu autre chose chez moi. On a parlé avec beaucoup de tendresse de l'enfance, de mon père, de ma mère, tout cela. Mais en même temps, vous savez, ce que j'ai ressenti très rapidement, c'est que j'étais en rupture totale avec les croyances, les traditions de mes proches. Je ne me sentais pas du tout appartenir à ce monde-là.
C'est pour ça que vous écrivez dans le livre Imprévu, qui est un livre où vous racontez aussi votre parcours. Je vous cite, hein. La musique de mon adolescence s'est jouée sur un instrument en dents de scie, une vie apparemment rangée, mais en sourdine, une furie de remise en question de l'ordre immuable établi.
Absolument, oui. Donc, c'était les traditions, mais aussi la religion. Donc, je me suis émancipé de la religion. Je ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire, par exemple, il nous est arrivé, quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais au collège, de manger pendant le ramadan. On le faisait en clandestinement. Il y avait 3 ou 4 chenapans parmi mes amis, on le faisait ensemble. Je n'étais pas le seul. Mais pourquoi? Voilà encore une énigme dans ma vie. Pourquoi, à un moment, je veux dire, bon, je n'avais pas lu tous les livres, je découvre que je ne partageais pas un credo, ce que croyaient les gens autour de moi, ce qu'ils estimaient être essentiel dans leur vie, les traditions, les fêtes, les machins, tout ça, ça ne me parlait pas. Donc je me sentais véritablement en dehors. Donc cette singularité a été, cette conscience d'une certaine singularité a été véritablement le point de départ de ce qui va se produire par la suite. Peut-être davantage que ce qui s'est produit après, sur le plan politique.
Singularité ou sentiment de singularité ou peut-être d'étrangeté.
Oui, d'étrangeté,
monde,
oui.
Ajouté à donc une forme de colère, de rage, qui s'exprime très vite dans vos premiers écrits. Hein, le premier recueil de poèmes qui a été écrit entre 1965 et 1967, c'est Le règne de barbarie, où on lit déjà, je vais lire un extrait, on lit déjà cette rage qu'on retrouve ensuite dans L'œil et la nuit, qui est votre acte de naissance littéraire, qui est comme un manifeste, comme un cri, mais on le lit déjà dans le règne de barbarie, au tout début. Meurt tout cerveau rapiécé le long des cryptes. Meurt, meurt, logos des cités. Raison, meurt, broyé dans les rides. Sans le secours des mains, meurt, cerveau de grisaille. Meurt, proche la nuit où tant de chapelets s'égrènent pour le retour de l'aurore. Que disent les sphinx quand impossible le retour, eux-mêmes ont vieilli, lassés de leur alliance avec le vent. Maintenant j'ai besoin de dégueuler des strates de narcotiques. Et fumé de fumier, mot de raison pâle comme une tisane, je jette ces livres où j'ai appris l'orgueil. Me voilà, ici, présent, là, velu de nuit, hérissé de guêpes, avec cette fragrance de muscles comme une ossature de chameau, prêt à bondir.
En un jappement.
Voilà. On sent cette... Il y a quand même vraiment une colère tout de suite, qui a besoin d'être dite.
Oui, alors, mais là, ce que vous avez lu s'inscrit déjà dans une autre époque que celle que j'ai décrite précédemment.
Avant.
C'est-à-dire, c'est pas le moment de l'adolescence où je me sens déphasé, tout simplement. Je ne partage pas ce qui est considéré comme normal, la règle autour de moi. Ça, ce que vous avez lu, advient à un autre moment, celui où, bon, je suis déjà au sortir de lycée, tout cela, je vais à l'université et je commence à réfléchir. Ma réflexion prend un autre tournant parce que je ne suis plus à Fès, qui était malgré tout, j'étais en vase clos à Fès. Rabat, c'est quand j'arrive à Rabat, à l'université de Rabat, à la faculté des lettres de Rabat, je sens que je suis déjà dans un autre monde. Totalement ouvert, même mes camarades de classe à la faculté des lettres, il y avait deux religieuses, par exemple, une anglaise, des jeunes filles juives marocaines, et des jeunes filles musulmanes aussi. Donc, ça change la donne, complètement, parce que une des choses aussi qui, comme ça, sans que j'en ai pris conscience véritablement à l'époque, pendant mon adolescence, c'est l'apartheid qui existait entre jeunes filles et jeunes garçons. De toute ma vie d'adolescent jusqu'à mon départ à Rabat, je n'ai connu qu'un amour platonique, c'est-à-dire qui s'exprimait par les yeux. pas plus. On n'osait pas parler à la personne qu'on avait remarquée, etc. Bon, voilà quelque chose, par exemple, qui aussi me travaillait en profondeur. Une fois à Rabat, c'est autre chose. On découvre, je commence à m'ouvrir véritablement, je lis le monde, enfin...
Vous êtes un peu plus dans ce monde-là, enfin, vous sentez oui. plus appartenir à ce monde-là.
Absolument, parce que c'est un monde beaucoup plus cosmopolite, déjà, et d'autres choses commencent à m'intéresser véritablement, notamment, bon, c'est à cette époque-là aussi que j'ai découvert la littérature maghrébine de langue française, par exemple. Kateb Yassine, Mohamed Dib, Moul Feraoun, Albert Bemmi, Drich Raibi pour le Maroc, ça a été important. Pourquoi ? Parce que je découvre avec cela que la littérature, c'est pas seulement les Français qui la font. Avec la découverte de la littérature maghrébine, de langue française, je découvre que nous aussi, on est capable de faire, d'écrire des livres, des livres importants, des livres qui peuvent constituer des événements littéraires. Il y avait ça, il y avait la découverte aussi de Frantz Fanon. Marx viendra bien après, plusieurs années plus tard. Ma révolte d'ordre politique, je dirais, le biais par lequel elle s'exprimait, c'était la culture. La prise de conscience de la domination coloniale, mais la domination culturelle. Comment se libérer de cette domination? Comment décoloniser? Comment acquérir les outils qui nous permettent de nous exprimer librement et de créer une culture nouvelle? À partir aussi de notre propre réalité, de tout cela. Et ce sont les prolégomènes de ce qui va devenir la revue Souffle.
L'instrument de la décolonisation des esprits.
Oui.
Alors, 1966.
Oui.
Une revue Donc, littéraire,
pour moi,
une revue intellectuelle.
C'est pas la prise de conscience politique qui prédomine, c'est la prise de conscience de la question culturelle et identitaire. À l'époque, qui m'amènera plus tard à une prise de conscience, pas seulement une prise de conscience politique, mais à un engagement politique.
Alors, qui participe à cette aventure de la création de cette revue, qui est alors une revue trimestrielle, et qui a duré jusqu'en 1972, le temps de 22 numéros en français et 8 en arabe, Abdelatif Lahabi. Au début, qui est de l'aventure avec vous ?
Ça s'est fait un petit peu par hasard parce que j'avais découvert en 64, je crois, 1964, début 65, deux petits opuscules. C'était très artisanal, c'était une petite revue, une qui s'intitulait Poésie toute et l'autre Eau vive. Et c'était deux chenapans, poètes qui animaient ces opuscules, Mohamed Khairuddin et Mostafa Nissabouri. Deux poètes, j'ai découvert ça, à cette époque-là, j'avais déjà commencé à écrire de mon côté.
On l'a évoqué.
Mais en découvrant qu'il y avait des poètes qui avaient un petit peu le même tempérament que le mien, je suis allé vers eux. Je les ai rencontrés et je leur ai proposé de créer une revue poétique et littéraire et ils ont été tout de suite d'accord. Et en même temps, la chance... Vraiment, une chance extraordinaire a fait que, au moment où on était en pourparlers pour créer la revue, l'un des peintres qui vont compter énormément dans l'expérience de la revue, Mohamed Melihi, faisait une exposition à Rabat. Donc je suis allé voir l'exposition et je découvre là une peinture absolument qui me renversante pour moi. Parce qu'il était dans une modernité absolue, c'est-à-dire...
Donc des poètes, un peintre.
Un peintre. Alors, je rencontre Melihi, je suis subjugué par son travail. Et donc je lui dis, on est en train, avec deux amis, on a le projet de faire une revue littéraire et poétique, qu'est-ce que tu voudrais faire pour nous, la couverture, t'occuper de l'aspect de... Il a tout de suite dit oui. Et donc, Melihi a convaincu ses deux autres compagnons de de se mettre avec nous dans cette aventure. Ce qui fait que le numéro, le premier numéro de la revue Souffle, il y a eu des textes de Khaldin, de Nissaboury, de moi-même, et des dessins de trois peintres. La revue a démarré comme cela, dans une osmose, dans un, déjà dans cette préoccupation qui deviendra pour moi essentielle, à savoir l'idée de faire communiquer les arts entre eux. Bon, il est évident que dès quand le premier numéro est sorti dans les kiosques, il était à peine visible parce que c'était tellement étrange.
Et puis ensuite, Abdellatif Lahabi, la revue prend une tournure plus politique, sans doute, avec l'arrivée dans la revue Souffle, en 1968, d'un homme qui était un militant de gauche, juif et arabe, opposant ouvert à Hassan II, et qui est devenu votre ami, Abraham Serfati.
Abraham, oui, bien sûr, oui. Ben, avec Abraham, c'est vrai que la revue va prendre un certain tournant. Abraham est un homme qui d'une grande culture, de façon générale. D'abord, il était plus âgé que nous, beaucoup plus âgé que nous. Et il avait déjà milité à l'époque du protectorat, il a été exilé par les autorités coloniales du Maroc, il avait adhéré très tôt au Parti communiste marocain quand il s'appelait comme cela, parce qu'après il a pris d'autres dénominations. Donc il apportait, lui, un arsenal théorique, largement imprimé par la théorie marxiste. Alors que avant, nous c'était un cri. C'était tripal, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait absolument que quelque chose meure pour que quelque chose advienne. Avec Abraham vient la raison, et la raison marxiste. On découvre que la littérature, l'art, la culture de façon générale, débouche de façon automatique sur le politique. Il n'y a pas de culture qui puisse être séparée de la politique. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, quand on prend conscience que, par exemple, il y a un système d'enseignement qui est complètement pourri. C'est-à-dire, on prépare nos enfants à devenir des chômeurs, des analphabètes bilingues, comme j'ai pu le dire à un certain moment. Bon, pour que les intellectuels, les écrivains puissent exister, c'est-à-dire jouer un rôle, il faut aussi un minimum d'infrastructures, sans quoi la culture ne fonctionne pas. S'il n'y a pas des bibliothèques publiques partout, parce que jusqu'à maintenant, au Maroc, il y a des communes de 50 000, 100 000 habitants qui n'ont pas une bibliothèque publique digne de ce nom, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'école de formation pour le théâtre, ne parlons pas de la musique.
Mais comment vous le traduisiez dans la revue ? Comment ça devenait subversif dans les textes que vous écriviez et que vous publiez ?
Oui, c'est-à-dire, sans une politique culturelle digne de ce nom, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de projection vers l'avenir, il n'y a pas de projet sociétal, ni démocratique, ni quoi que ce soit. Donc on se heurte fatalement au système qui, lui, est immobile, ne veut pas bouger dans ce sens-là. Il est là pour sauvegarder ses privilèges, tout cela. Donc le travail qu'on faisait sur le plan de la création artistique, culturelle, etc., ne pouvait pas ne pas déboucher justement sur et se heurter de façon frontale à l'archaïsme du système.
Mais c'est aussi parce que Abdellatif Lahabi, la revue, est devenue assez incontournable, et pas seulement au Maroc, au-delà du Maroc, qu'elle était perçue comme ce qu'elle était, c'est-à-dire très subversive. Et puis qu'en plus, avec Abraham Serfati, en 1970, vous avez fondé un mouvement qui était un mouvement clandestin, politique, d'extrême gauche.
Oui.
Donc tout ça faisait que vous vous êtes heurté frontalement aux autorités.
Mais avant l'engagement politique proprement dit, je crois que le discours qu'on tenait était particulièrement subversif. Parce que ce qu'on revendiquait, c'était un changement complet de société. Ça s'inscrivait dans un projet sociale et politique qui était aux antipodes de ce que voulait maintenir le système dominant. Donc, disons, le choc était, ne pouvait pas ne pas se faire. Il était fatal, en quelque sorte. Oui.
Le choc s'est fait d'autant plus qu'en 1971, il me semble, que les mouvements d'opposition se renforcent, les manifestations estudiantines sont monstres, et vous êtes vu, vous, perçu comme une des figures de proue de ce mouvement.
C'est vrai, oui.
En fait, les jeunes à cette époque-là au Maroc vivaient, on peut peut-être le dire comme ça, leur mai 68.
Oui, c'était la même révolte, c'était parfois les mêmes slogans, d'ailleurs, que ceux qui ont été prononcés en Allemagne, aux États-Unis, en France. Nous faisions partie de cette jeunesse qui voulait changer de monde, que le monde change de base. Voilà.
C'est la répression qui a été différente.
C'est la répression qui a été différente.
En plus, vous étiez enseignant, donc...
J'étais enseignant.
Celui qui va agiter les jeunes.
J'étais, du moins, perçu comme cela.
Oui, c'est ça.
Comme étant...
Perçu comme cela.
Disons, le dirigeant du mouvement maoïste au Maroc, je ne sais pas quoi. En fait, il y avait des manifestations étudiantines, lycéennes, tout cela. Il fallait trouver, justement, un responsable ou des responsables. Bon, ça s'est porté sur moi et sur Abraham Serfassi, tout simplement. Ils n'avaient rien contre nous. De toutes les manières, ces organisations qui ont été créées dans la clandestinité, c'était des organisations qui ne prônaient pas la lutte armée ou quoi que ce soit. Elles étaient pour un combat des masses populaires pour réclamer la justice, les droits, etc. Donc, ça s'arrêtait là. Avant mon arrestation, on avait sorti un texte qui dénonçait le régime. Voilà, pas plus. Auparavant, bon, quand il y avait des arrestations, tous les problèmes que le Parti communiste avait vécu, etc., c'était, bon, les accusations, c'était recréation de ligues dissoutes, atteinte à l'ordre public, des choses comme ça. Ça cherchait dans les 6 mois de prison, pas plus. Les dirigeants du Parti communiste n'ont jamais passé des années et des années de leur vie en prison. Donc, après, quand on a été jugé tout cela et qu'on a été condamné à des peines de prison allant jusqu'à 15 ans et après jusqu'à la perpétuité, c'était absolument incroyable. Bon, on n'en revenait pas. C'est dire combien le régime, à l'époque, nous avait perçus comme un danger réel, qui pouvait ébranler les bases sur lesquelles reposait le système.
Vous êtes arrêté, vous, en janvier 1972, relâché au bout d'un mois sous la pression, puis inculpé de nouveau 15 jours plus tard pour atteinte à la sûreté de l'État. Il faudra attendre 1973 pour que vous soyez condamné à 10 ans de prison lors d'une parodie de justice. Mais on vous enferme, Abdelatif Lahabi, dans ce que vous avez appelé la citadelle d'exil à Kenitra, où vous devenez le prisonnier numéro 18611. À suivre l'épisode 3, dans la citadelle d'exil, numéro 18611. Merci et à demain. C'était À Voix Nue avec Abdelatif Lahabi, réalisation Asia Weber, prise de son Hervé Dubreuil, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.